RFI, 10h en temps universel, 11h à Beyrouth.
Grégoire Morelli.
À la une, un cessez-le-feu fragile au Liban, mais l'arrêt des combats permet à des centaines de familles de revenir chez elles. Les bombardements israéliens ont toutefois rendu certains quartiers inhabitables. Nous serons à Beyrouth dès le début de ce journal. À suivre également la fin annoncée de la présence militaire française au Sénégal. Annonce du président Bassirou Diomaye Faye hier. Ce dernier juge la présence des soldats tricolores incompatible avec la souveraineté de son pays. La France, actuellement en discussion avec l'Indonésie pour obtenir la libération de Serge Atlaoui. Ce citoyen français a été condamné à mort sur l'archipel en 2007 pour des accusations de trafic de drogue. Des accusations que l'intéressé a toujours rejetées. Enfin, que faire pour lutter contre la prolifération du plastique? La question est débattue en Corée du Sud, à Busan. Dans cette édition, focus sur les petites mains qui traitent tous les jours nos déchets envoyés dans leur pays. Un travail de collecte et de tri à main nue qui expose leur santé à de nombreux risques. Le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou menace le Liban d'une guerre intensive en cas de violation de la trêve hier après-midi. Au deuxième jour de cette accalmie, l'armée israélienne a mené une frappe de drone dans le sud du pays. Elle dit avoir visé une installation du Hezbollah. L'armée libanaise dénonce pour sa part une violation. Aucune violation d'ailleurs du cessez-le-feu n'a toutefois été observée durant cette nuit. Dans cette accalmie fragile, les Libanais déplacés continuent donc de revenir vers leur maison ou d'inspecter les lieux. Mais les raids israéliens ont rendu certains quartiers inhabitables avec la destruction de centaines de logements et d'infrastructures vitales dans la banlieue sud de Beyrouth, Laure Stéphan.
Joumana est revenue à Sainte-Thérèse, un quartier de la banlieue sud. Un bref passage, elle en repart avec 5 sacs en plastique, des vêtements, ce qu'elle a pu récupérer de son appartement devenu inhabitable.
Nous n'avons plus d'appartement, l'immeuble a été grandement détruit. On habitait au premier, il y a tant de destruction. Si vous rentrez dans cette rue-là, les immeubles sont en ruine. C'est Sainte-Thérèse, un quartier en lisière de la banlieue sud, et pourtant tellement détruit.
Des commerçants nettoient les débris de verre au sol. Un habitant jette d'un balcon les décombres. Entassé chez lui, il n'y a pas trace de l'État ou d'organisation pour ce déblayage et les services essentiels manquent, dit Joumana.
Nous aimons la banlieue sud, mais il n'y a plus d'immeubles. S'ils reconstruisent le nôtre, bien sûr, nous reviendrons. Notre maison, on y avait mis les efforts d'une vie et tout a disparu. Dans le quartier, il n'y a pas d'électricité, pas d'eau, l'air est irrespirable. Cela va mettre du temps pour que les services reviennent. Il n'y a rien et la situation reste précaire.
La trêve est fragile. Au barrage qui cerne la banlieue sud, l'armée distribue des tracts, ils mettent en garde contre la présence d'engins non explosés. Laure Stéphan, Beyrouth, RFI.
Et après cette trêve au Liban, peut-on aussi espérer un arrêt des combats dans la bande de Gaza? Les conditions pour conclure un accord sur la libération des otages israéliens retenus dans l'enclave se sont considérablement améliorées. C'est ce qu'a estimé ce jeudi le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou lors d'un entretien télévisé. Mais dans la bande de Gaza, la situation reste catastrophique. Ce sont les mots de l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, qui met en garde contre de graves pénuries de médicaments, de nourriture, d'abris et de carburant en particulier dans le nord de l'enclave. Et dans le reste de l'actualité, il n'y aura bientôt plus de soldats français au Sénégal. Déclaration du président Bassirou Diomaye Faye dans un entretien au journal Le Monde. Alors qu'aujourd'hui, ce sont 350 militaires français qui sont présents dans le pays. Le président sénégalais qui est donc revenu sur cette question de la présence militaire lors de son entretien à France Télévisions. Écoutez-le.
Est-ce qu'en tant que Français, vous envisagez de nous voir dans votre pays avec des chars ou avec des véhicules militaires, des militaires sénégalais avec les tenues sénégalaises? Comme ça, parce que sur le plan historique, la France a esclavagisé, a colonisé et est restée. Évidemment, je pense que quand vous inversez un peu les rôles, vous concevrez très mal qu'une autre armée, la Chine, la Russie, le Sénégal ou n'importe quel autre pays puisse avoir une base militaire en France.
Donc les soldats français doivent partir?
Il n'y a pas encore de délai de rigueur par rapport à ça, et si ça doit être fait, cela sera dit aux autorités françaises qui en auront la primeur et suivant les calendriers établis.
La question de la présence militaire française remise aussi en cause au Tchad. Le pays sahélien, dernier allié historique de Paris dans la région, a dit hier vouloir mettre fin aux accords de défense le liant à la France. La France qui demande le rapatriement de Serge Atlaoui, emprisonné en Indonésie. C'est ce qu'a annoncé Jakarta sans que Paris ait confirmé l'information pour l'instant. Ce Français, âgé aujourd'hui de 60 ans, a été condamné à mort en 2007 pour un trafic de drogue qu'il a toujours contesté. Heike Schmidt, bonjour.
Bonjour Grégoire.
L'Indonésie, qui est connue pour sa législation anti-drogue très stricte, il s'agit même de l'une des plus sévères au monde.
Oui, tout à fait. L'affaire de Serge Atlaoui avait d'ailleurs fait grand bruit en Indonésie, c'était en 2005. Il avait été arrêté dans une usine dans laquelle des enquêteurs avaient trouvé de la drogue. Initialement condamné à la prison à vie, ce père de 4 enfants a vu la Cour suprême ensuite alourdir sa peine en appel. Il devait être exécuté donc en 2015 aux côtés de 8 autres condamnés. Mais à l'époque, Paris avait fait pression et Serge Atlaoui avait obtenu un sursis temporaire. Aujourd'hui, ce Français peut donc espérer d'être rapatrié avant la fin de cette année. Car l'Indonésie est actuellement en discussion avec la France, mais aussi avec l'Australie et les Philippines en vue du rapatriement de plusieurs détenus. D'ailleurs, un autre Français, Félix Dorfin, purge actuellement une peine de 19 ans, également pour un trafic de drogue qu'il a toujours nié. En revanche, Michael Blanc a lui pu rentrer libre en France en 2018 après avoir quand même passé 19 ans dans une prison indonésienne.
Merci à vous, Heike Schmidt, pour toutes ces précisions. Profiter de la dinde sans parler de politique. Les Américains se réunissent en effet ce week-end pour fêter Thanksgiving et donc se retrouver en famille ou entre amis aux États-Unis. C'est l'une des fêtes les plus importantes de l'année. Mais quelques semaines après l'élection de Donald Trump, les discussions politiques peuvent vite tourner à la dispute. Alors certains Américains décident de simplement éluder les sujets sensibles, comme ici à Atlanta. Reportage d'Edouard Maille.
Victor, 25 ans, a voté pour Kamala Harris, tandis que sa famille a préféré Donald Trump et tous se réunissent ce week-end pour Thanksgiving.
Surtout avec mon père, les débats peuvent rapidement chauffer. Malgré ça, on s'aime et on ne veut pas se séparer à cause de la politique. Je comprends que ça peut être un problème dans d'autres familles, mais ce n'est pas le cas pour la mienne. On est assez ouvert à la discussion.
Ne pas parler de politique, c'est la stratégie de Céleste, 22 ans. Elle a voté démocrate et va passer cette fête avec des amis plus conservateurs.
On essaye de ne pas trop parler de politique entre nous, juste pour avoir la paix. On parle d'autres choses, on est des bons amis et on aura d'autres sujets de conversation.
Jacques, lui, rejoindra sa famille pour Noël, comme son père, le trentenaire, a voté pour Donald Trump. Mais sa mère et sa sœur sont démocrates et la famille a appris à gérer ses différences politiques.
La clé pour garder de bonnes relations avec sa famille, c'est de s'écouter, mais aussi de faire entendre ses positions. Et c'est pour ça qu'on arrive à rester soudés.
Jacques estime que les démocrates de sa famille seront cette année plus à l'écoute des arguments économiques de Donald Trump à cause de l'inflation et de la dette publique américaine. Edouard Maille, Atlanta, RFI.
Et on termine cette édition avec ce fléau mondial, le plastique. À la conférence de Busan, en Corée du Sud, consacrée à la question, les petites mains du plastique, justement, viennent témoigner de leurs conditions de vie. Il s'agit des gens qui traitent tous les jours nos déchets envoyés dans leur pays. Et ainsi, à travers le monde, c'est plus de 21 millions de personnes qui travaillent dans des déchetteries de plastique où aucune mesure sanitaire n'est respectée. Les détails, c'est avec Célio Fioretti.
John Chueya est kényan et il a fait tout le chemin jusqu'à Busan en Corée du Sud pour témoigner du travail souvent invisible des ramasseurs de déchets plastiques. Il nous raconte son parcours.
Quand j'avais 13 ans, notre entreprise familiale qui vendait des vêtements de seconde main a brûlé dans l'incendie du marché. Notre famille s'est retrouvée dans une situation où tout le monde devait travailler pour manger. Et c'est comme ça que je me suis retrouvé à travailler à la déchetterie dans laquelle je suis depuis 21 ans.
Un travail éreintant de collecte et tri de déchets à la main qui expose sa santé à de nombreux risques.
Cela impacte notre santé. Je suis allé dans plusieurs déchetteries en Afrique du Sud et une en Afrique de l'Ouest. J'ai récemment appris que le plastique est composé de plus de 16 000 produits chimiques. Vous imaginez quand ça brûle. C'est l'une des raisons pour lesquelles beaucoup de mes collègues ont, depuis des années, des symptômes qui paraissent cancéreux. Mais nous n'avons pas pu faire d'examen car accéder à des soins médicaux est très cher dans mon pays.
Venu partager son témoignage, il espère une prise de conscience des autres pays sur la situation de millions de travailleurs et un traité qui pourrait les protéger. Célio Fioretti, Busan, RFI.
11h09, ici à Paris, 1 heure de moins en temps universel, c'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Le prochain rendez-vous avec l'actualité internationale, ce sera d'ici 1h midi, heure de Paris. D'ici là, bonne suite des programmes sur RFI.